France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Bonjour à toutes et à tous. Les premières conclusions de l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller aux États-Unis, plutôt favorable à Donald Trump, c'est ce qui ressort du résumé qui a été publié hier par le ministère de la Justice. Il tente à prouver, ce résumé, qu'il n'y a pas eu de collusion avec les Russes, ni de la part de Donald Trump, ni de la part de son équipe de campagne en 2016 lors de l'élection présidentielle. Sur les accusations, notamment portées par les démocrates, de tentatives d'obstruction de la justice, notamment en lien avec cette enquête Mueller, les choses sont plus nuancées. Ni preuve de tentative d'obstruction, dit le rapport, ni preuve formelle d'innocence de Donald Trump, ce qui n'a pas empêché le président américain hier soir de crier victoire.
So it's complete exoneration, no collusion, no obstruction. Thank you very much. Thank you.
Donald Trump qui voit ses chances de réélection en 2020 relancer, les démocrates qui sont bien décidés de leur côté à éplucher l'intégralité du rapport. On fera le point complet sur la publication de ce rapport Mueller dans nos éditions de la matinale. Au Royaume-Uni, Theresa May face à une fronde de son propre cabinet depuis hier dans un contexte de forte mobilisation des anti-Brexit descendus dans la rue en masse. Samedi, les tentatives de déstabilisation vont visiblement bon train. Ce matin, la Première ministre convoque ses ministres à Downing Street pour une réunion qui s'annonce compliquée. En France, l'ouverture du procès en appel ce matin d'Abdelkader Merah et de Feta Malki. 7 magistrats professionnels vont rejuger les deux hommes pour tenter de faire la lumière définitive sur leur niveau d'implication dans les crimes de Mohamed Merah il y a tout juste 7 ans à Toulouse et Montauban. Le terroriste Mohamed Merah, frère d'un des deux accusés, avait tué 7 personnes dont 3 enfants. C'était en mars 2012. La suite des petits matins de France Culture, maintenant à 6h02. Merci d'être avec nous.
Chaque jour sur France Culture à midi, La Grande Table par Olivia Gisbert.
Pièce par pièce, elle construit un récit, transforme des silhouettes en personnages, donne forme à ses rêves. La romancière Marie Ndiaye revient avec 3 textes pour les planches. Puis, comment le yoga a-t-il conquis le monde ? Zen, la journaliste Marie Coq raconte les coulisses d'un phénomène mondial aux 300 millions d'adeptes.
La Grande Table, ce lundi à midi et sur franceculture.fr.
Le réveil culturel tout de suite avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce lundi 25 mars et d'autant plus ravi que ce matin, j'ai l'extrême privilège de recevoir le grand comédien Michel Bouquet. Bonjour Michel Bouquet.
Bonjour.
Et
bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Tous les lundis, vous savez, c'est l'actualité des livres qui est au programme du Réveil Culturel. Aujourd'hui, pour la première fois, il sera question d'un audiobook. Oups, non pardon, d'un audiolivre. Michel Bouquet lit Jean de La Fontaine sous la direction artistique d'Ulysse Di Grigorio, également présent avec nous. Le réveil culturel a été préparé avec la complicité de Corinne Amar et Maël Ray, réalisé par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Claude Nior.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Michel Bouquet, ça tombe bien, aujourd'hui c'est la fin du 21e printemps des poètes et on va bien fêter ça. Pour vous, Jean de La Fontaine est un poète, un conteur ou c'est l'auteur des fables, un fabuliste?
C'est toute une partie du XVIIe siècle qui est la plus vénérable, la plus extraordinaire pour un homme de culture. C'est le grand siècle. Et c'est un représentant du grand siècle qui est particulièrement familier, agréable, charmant, et qui est en même temps d'une lucidité prodigieuse et d'une aménité totale. C'est sûrement un des plus grands hommes de ce grand siècle.
Alors vous qui avez interprété sur scène les plus grands poètes, des grands auteurs, hein, Molière aussi, Shakespeare, Ionesco, Pinter, Anouilh, quelle place vous réservez à Jean de La Fontaine ?
J'ai le sentiment que La Fontaine est peut-être le père du tout. C'est peut-être le père du tout. C'est un homme apparemment facile d'accès, assez plaisant, très, très charmant. Et par derrière, c'est peut-être l'être le plus profond. C'est peut-être l'être le plus miraculeux, je dirais, moi, personnellement, parmi les écrivains. C'est un des très grands écrivains. Et en même temps, c'est un père, c'est un ancêtre, c'est quelque chose qui nous tient vraiment aux fibres les plus intimes de nous-mêmes.
Pour sa qualité d'écrivain, de poète, ou c'est le côté moraliste que vous gardez de La Fontaine, Michel
moi,
Bouquet?
Je dirais que c'est l'ensemble de toutes ces qualités, souvent contradictoires les unes avec les autres, et pas pratiqué par de la même manière par les mêmes personnes. C'est quelqu'un qui réunit tout le monde, qui réunit tout le monde dans quelque chose de très français. C'est le miracle de la compréhension du français, de ce qu'est le français. C'est une lucidité extraordinaire, et en même temps, c'est une compréhension de tous les petits défauts qui accompagnent ces grandes qualités. Mais ces défauts, quelquefois, prennent le pas d'une façon un peu révoltante à certaines époques. Et La Fontaine est là pour dire « Oh, attention, attention, modérons-nous, modérons-nous, il en est temps, il en est temps. » Alors, c'est un prodigieux grand-père, en fait. C'est quelque chose de rare. Il comprend tout, il admet tout, et en même temps, il condamne aussi, quand il est temps. C'est un être très simple, et en même temps, d'une complexité incroyable, d'une moralité exemplaire. C'est un être parfait quand même. C'est un être parfait.
Ça fait pas peur, les êtres parfaits?
Ben non. Dans son cas, ça ne fait pas du tout peur. Ça fait rire, ça amuse, ça impressionne, mais ça ne fait pas peur du tout. Non.
Et cet amour pour Jean de La Fontaine, Michel Bouquet, je suppose que ça remonte à loin. Est-ce qu'il faut remonter jusqu'à l'époque où vous étiez à l'école? Comment vous avez découvert les fables de La Fontaine?
Oh, à l'école, j'étais un très mauvais élève. J'étais dans une pension qui était très dure, de 7 à 14 ans. Je n'ai rien appris parce que j'étais toujours au piquet.
On a du mal à l'imaginer, l'enfant.
Tout à fait exact. Je n'ai rien appris du tout, mais j'ai partagé quelque chose avec La Fontaine, justement, de me dire que regarder était très important, très important. Je voyais 600 élèves dans la cour de la pension où j'étais à l'école Fénelon à Vaujour en Seine-et-Oise. Je regardais ces gens se battre, ces gens s'insulter, ces gens ou s'amuser à rire comme des fous.
Mais pourquoi?
Et j'étais main derrière le dos, tête baissée, ouais, dans le préau, à faire mes heures de piquet.
Mais pourquoi vous les faisiez, ces heures au piquet?
Ben parce que j'étais complètement indifférent.
Vous étiez ailleurs ou vous étiez un rebelle?
Ah, pas rebelle du tout.
Vous étiez juste ailleurs.
Oui. J'étais dans une concentration, en fait, pour bien regarder ce qu'était l'être vivant, pour bien regarder quel était mon contemporain, et pour m'inspirer, pas d'un rejet, mais m'inspirer, j'étais dans l'attente d'une compréhension possible.
Et seul, et solitaire.
Oh, mais j'étais pas du tout impressionné par ça. J'étais pas du tout. J'étais fier et content d'être là comme ça. J'étais très très content. J'étais très content d'être à l'abri. Le fait d'être à l'abri était pour moi essentiel. J'ai passé 7 ans de pension à voir les gens se taper dessus, se molester, se tyranniser, et je me disais, ben, je suis mieux en étant là, tranquille dans mon coin, Main derrière le dos, tête baissée.
Et Jean de La Fontaine, vous le découvrez donc plus tard dans votre carrière de comédien.
Quand je l'ai fréquenté, quand je l'ai lu, je l'ai trouvé très très familier à une attitude qui ressemblait. J'avais emprunté des choses à lui alors que je ne le connaissais pas. J'avais emprunté des choses à lui pour me tenir quoi ? Pour me tenir bien à l'écart et regarder.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Mais vous êtes arrivé à Jean de La Fontaine parce que vous lisez beaucoup, Michel Bouquet, ou c'est par le théâtre et votre travail de comédien que vous avez découvert son œuvre ?
Ben, c'est-à-dire que mon travail de comédien m'est venu par ces heures de piquet que je faisais. C'est là où j'ai appris mon métier de comédien, qui était de réfléchir à ce que je voyais et de tenir compte que ce que je voyais avait besoin d'une analyse, avait besoin d'être vraiment fréquenté. Tout naturellement, quand j'ai connu La Fontaine, eh ben j'ai ressenti un peu la même chose avec ce grand écrivain. Il m'a guidé, il m'a compris, il a apprécié mon attitude, sentiment de bien regarder attentivement.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier que vous pratiquez maintenant depuis 75 ans, Michel Bouquet? C'est le métier de comédien. À quel moment vous avez voulu être comédien?
À la sortie de la pension, je me suis trouvé tout seul, Cité Jardin, au Lila. Et c'était la guerre. Mon père partait sur le front, ensuite après en captivité. Et je me suis dit, ma mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous protéger. J'avais trois frères et moi, pour nous protéger. Et tout de suite, toute la difficulté du monde était devant nous. Et comment réagissions-nous par rapport à cette difficulté du monde, à laquelle on est habitué, étant jeune, par ces 7 ans de pension. On est vraiment habitué à ça. Et alors, tout naturellement, l'idée de trouver des rôles, de trouver des personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit, dans le même sentiment, et puis leur donner vie, ça m'a paru être...
C'est pour échapper au réel et à la réalité
pour mieux regarder le réel. Pour être contemporain, si vous voulez, de toutes les malversations possibles. Avec la guerre, j'ai été servi merveilleusement. Et me dire de tenir le coup pendant cette période-là.
Et comment vous avez pris la décision de devenir comédien,
ça m'est apparu comme une distraction, comme une chose qui me divertissait complètement,
Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes inscrit à un cours?
J'ai été chez Escande un jour, qui était sociétaire de la Comédie Française, et très grand doyen, comme personne. J'avais noté son adresse de rue de Rivoli. Je suis allé un dimanche matin, au lieu d'aller à la messe, je suis allé là, et j'ai monté les cinq, six étages qu'il y avait à monter. J'ai frappé à la porte, une dame est venue, m'a dit, le maître est en train de faire sa toilette, il va aller à son cours, mais entrez, vous allez le voir, il va arriver très gentiment, etc. Il m'a dit, mais vous, vous avez appris quelque chose ? J'ai dit oui, j'ai appris des poésies de Musset. Et alors il m'a dit, ben il faut me les dire. Et alors j'ai commencé, du temps que j'étais écolier, je me mis un soir à rêver dans notre chambre solitaire. Devant ma porte vint s'asseoir un étranger, vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Son visage était triste et beau, etc. Enfin, tout le poème. Et il m'a dit, mais c'est très bien, vous avez une très bonne articulation, vous avez une très bonne voix, dites donc, c'est bien, c'est bien. Je vais à mon cours, au théâtre Édouard VII, un peu plus loin, on venait avec moi, puis vous allez voir ce que c'est qu'un cours de théâtre. Et alors je me suis trouvé, il m'a dit, vous mettez le dernier rang là de l'orchestre et puis vous regardez. Et puis dans 3 heures, quand le cours va être fini, je vous demanderai de venir. Et alors je me suis mis là, et puis j'ai attendu 3 heures, puis je voyais tous ces gens qui passaient des scènes, qui travaillaient, qui étaient... Et je me disais, mais c'est drôle, ils ne font que ça. Ils ont la chance d'avoir un théâtre, il y a un rideau qui se lève, et puis ils ne font que ça, ils s'amusent entre eux, ils discutent, c'est l'exode, c'est toute cette période terrible, n'est-ce pas ? Et puis ils font que ça. Et puis il m'a dit à la fin du cours, il m'a dit, vous allez monter maintenant sur scène, et puis vous allez me dire le poème, vous allez nous dire le poème que vous m'avez dit tout à l'heure. Alors mes genoux se sont mis à trembler, enfin j'étais dans un état épouvantable, on m'a conduit en scène, et puis j'ai commencé, et puis là tous les élèves s'en allaient, mettaient leur veste, leur truc, parlaient entre eux, etc. Je me mis un soir à rêver dans notre chambre solitaire, et alors Escande s'est levé, et il a dit, au lieu de parler entre vous, vous feriez mieux de prendre une leçon. J'ai pleuré, et j'étais dans un état épouvantable. Il m'a dit, faut reprendre, il faut recommencer. Et puis j'ai dit mon poème en entier. Et il a dit, très bien, ben alors tout le monde s'en va maintenant. Oui. Et maintenant, je vais aller avec vous voir votre mère. On y va. Et puis il a vu ma mère et puis il a dit, écoutez, il faut que ce petit fasse du théâtre. Mais ma mère a dit, je ne sais pas du tout, je ne comprends rien du tout à tout ça, mais son père est en captivité, je ne peux pas prendre cette décision. Il a dit, vous savez, ça va aller très bien, ça va se passer très bien. Faites confiance et son père sera content quand il va rentrer de captivité. De voir son fils faire ce métier.
Vous aviez quel âge à l'époque, Michel Bouquet ?
Écoutez, je suis de 25, vous voyez, et j'avais 15 ans.
Et vous n'avez rien oublié ?
Non. Et puis j'ai commencé ce métier merveilleux, et puis vous... ça a rempli ma vie. Et puis j'ai commencé à... Je me suis dit, j'ai eu un sentiment, c'est que... Quand Escande est parti et que ma mère avait accepté que je fasse ce métier, je me suis dit, maintenant, il faut lire.
C'est à partir de ce moment-là que vous vous mettez à lire, Michel Bouquet.
À lire, oui. Et puis j'ai lu La Fontaine, et puis j'ai lu Racine, et puis j'ai lu Molière.
Et puis surtout, l'aventure continue. Aujourd'hui, vous jouez toujours, Michel Bouquet ?
Ben oui, je lis toujours.
Mais est-ce que vous êtes toujours sur scène aussi ? Vous jouez ?
Maintenant, c'est fini.
Pourquoi ? Jusqu'à l'année dernière, vous étiez sur scène, tout le monde venait vous voir.
Oui, mais c'est parce que je suis trop fatigué. Je ne peux plus. J'ai 93 ans, bientôt 94. Vraiment, je ne peux plus, quoi.
Sinon, de travailler sous la direction d'Ulysse Di Gregorio, par exemple, pour lire La Fontaine?
Pour lire La Fontaine et pour relire La Fontaine et toujours le relire parce que on ne lit pas bien la première fois, pas bien la seconde, on lit un peu moins mal la dixième. c'est très important, chaque auteur, de le lire à fond.
Le laboureur et ses enfants, une des fables que vous avez lues dans ce audio-livre, Michel Bouquet, dit Jean de La Fontaine, on écoute.
Le laboureur et ses enfants.
Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, et vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor.
Le laboureur et ses enfants, une des fables lues par Michel Bouquet dans ce audio-livre avec, on vient de l'entendre au piano, Michael Rudy, qui interprète Mozart, sous la direction d'Ulysse Di Gregorio. Bonjour Ulysse Di Gregorio.
Bonjour.
Pourquoi vous avez pensé tout de suite à Michel Bouquet pour lire Jean de La Fontaine?
Écoutez, il y a souvent une évidence quand vous lisez un texte, vous avez comme l'écho d'un comédien qui
apparaît,
qui s'anime en vous. Ouais. Et voilà, c'est cette évidence qui m'a conduit à le contacter et à engager cette collaboration.
Vous avez une formation de comédien, mais vous êtes metteur en scène au théâtre. Ulysse Di Gregorio, racontez-nous comment vous êtes allé voir Michel Bouquet pour lui proposer ce projet.
Ben souvent, je crois que c'est sous les ailes de la Providence que notre rencontre s'est faite. Et puis, il y a eu tout de suite, en fait, cette affinité, cet amour pour les grands auteurs et pour la poésie d'abord. Et c'est ça ce qui nous a animés. Et à travers cette sélection de fables, c'est un florilège de fables plutôt poétiques que j'ai voulu mettre en avant pour finalement...
Le choix a été fait avec Michel Bouquet?
Non, je l'ai fait seul. Parce que j'avais mon idée de ce que j'avais envie de prendre chez La Fontaine. La Fontaine disait « Ma devise, c'est la diversité ». Il y a tout chez La Fontaine. Vous avez les contes licencieux, vous avez la drôlerie, vous avez quelque chose de beaucoup plus sévère. Vous avez vraiment tous les sentiments humains qui sont confondus. Et c'est ce réservoir, évidemment, éminemment conséquent, qu'on a envie de puiser, mais il faut bien qu'on prenne quelque chose, une couleur en particulier. Et moi, c'est la couleur de la poésie, de l'amitié, c'est de sortir de cet ennui, parce que le fil conducteur, c'est un fil très baudelairien, finalement. Ce sont deux poètes qui se sont inscrits dans leur modernité et qui ont amené leur siècle, au fond, voilà, à jouer un rôle dans la modernité. Baudelaire comme La Fontaine, même si cette comparaison peut être un petit peu surprenante, c'est l'ennui, sortir de l'ennui. Dans Le Voyage, Baudelaire dit « Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits tendus comme une voile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. » C'est l'ennui dont on parle dans Le Laboureur et ses enfants, c'est l'ennui du cerf malade qui va se regarder, c'est l'ennui qui va amener la jeune veuve finalement à reprendre la vie, c'est finalement un message de vie contre l'ennui.
Michel Bouquet, une réaction à ce que vient de dire Ulysse Di Gregorio?
Ah, je suis complètement d'accord. Ah oui, complètement d'accord.
Comment décrire votre voix, Michel Bouquet? Vous l'avez travaillé quand vous étiez...
Non, pas du tout. J'ai travaillé ce que j'ai dans la tête, mais pas ma voix.
Mais quand vous êtes au théâtre, Michel Bouquet, c'est pas la même chose que lorsque vous êtes au cinéma. Il y a un autre effet de voix.
Ah, c'est la même chose, si, ah si. Bon ça, c'est la même chose. Ah oui, le cinéma est aussi, comment dirais-je, aussi... Enfin, autant à percer les secrets. C'est le privilège du cinéma, d'ailleurs, de donner l'occasion de pouvoir aller au plus profond du secret de quelqu'un, ou d'une situation, ou d'une époque.
Et vous diriez pas la même chose pour le théâtre?
C'est la même chose au théâtre, mais c'est pour alors des perspectives plus grandioses, plus... Le théâtre, c'est quelque chose de tellement beau que... C'est quelque chose d'unique, le théâtre. C'est le texte, c'est quelque chose de...
Par exemple, quand vous enregistrez Jean de La Fontaine, vous faites du théâtre, Michel Bouquet, dans votre lecture?
Non, je fais plutôt une intimité. Je fais plutôt quelque chose de secret.
Et pourtant, vous le faites vivre avec votre voix, vos intonations, le ton que vous donnez à chaque passage dramatique.
Oui, mais c'est un peu du même ordre que le théâtre, mais c'est, si vous voulez, c'est plus intime. C'est plus personnel, c'est plus secret.
Et enfin, pour terminer, Michel Bouquet, vous allez continuer à lire Jean de La Fontaine ou Baudelaire ou d'autres auteurs que vous aimez?
Ah oui, je vais continuer dans la mesure du possible. Je vais continuer, oui. Oui, parce que là, c'est les forces physiques qui me manquent pour, vous savez, être dans la rue et se dire, je rentre dans un théâtre et je vais travailler. C'est un effort de... Les forces qui sont dépensées là sont inouïes. Et quand on arrive à mon âge, c'est impossible de pratiquer ce sport-là tous les jours. C'est impossible, c'est impossible. Alors on est obligé de dire non.
Et donc, à la place, vous préférez être dans l'intimité d'un studio avec Ulysse Di Gregorio pour enregistrer des textes?
Ben oui, là, je peux avoir un ennui quelconque, une fatigue, ça ne sera pas capitalisé, ça ne sera pas compté. On recommence demain, et puis.
Merci, Michel Bouquet, d'être venu ce matin. En tout cas, vous êtes en excellente forme. Ça a été, pour moi, un privilège de vous avoir. Merci aussi, Ulysse Di Gregorio.
Merci.
Michel Bouquet lit Jean de La Fontaine. Ça vient de sortir, c'est un audiolivre chez Audiolib. Ben voilà, j'ai tout dit. Bonne matinée.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le forum Vertigo sur la fabrique du vivant. Autour d'artistes, de scientifiques, d'intellectuels, Vertigo fait un zoom sur le présent vertigineux de la technologie, de la création et des nouveaux processus de production. 4 jours de rencontres internationales sur l'utilisation et la programmation du vivant dans les arts et un grand débat sur les défis sociétaux de la manipulation du vivant. Le Forum Vertigo, du 27 au 30 mars, une manifestation de l'IRCAM au Centre Pompidou dans le cadre de Mutation Création. Un partenariat France Culture. 10 minutes par semaine pour comprendre l'échec.
Guillaume Herner.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine. Super Fail, c'est à podcaster tous les lundis, enfin sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture. Tout de suite, le journal de 6h30 avec Benoît Bouscarel.
Bonjour à toutes et à tous. L'ouverture ce matin à Paris du deuxième procès Mera, 7 ans après les tueries de Toulouse et Montauban, le frère de Mohamed Mera comparé à nouveau aux côtés de Feta Malki. On y revient dans un instant. La bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale pourrait-elle ne plus être enseignée à l'école? Les programmes scolaires vont-ils l'effacer de notre mémoire collective? La polémique a enflé tout le week-end, le fin mot de l'histoire dans ce journal, avec Alexis Morel. Au niveau européen, la discussion sur une possible réforme des droits d'auteur enflamme le Parlement européen. Il doit se prononcer demain, nous verrons cela avec David Ravier. Et puis nous irons également bien sûr aux États-Unis dans ce journal où Donald Trump a été hier en partie blanchi par la publication d'un premier résumé de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. À Paris, donc, l'ouverture du procès en appel ce matin d'Abdelkader Mera et de Feta Malki sur demande du parquet. Une nouvelle cour d'assises spécialement constituée de 7 magistrat professionnel va rejuger les deux hommes pour tenter de faire la lumière définitive sur leur niveau d'implication dans les crimes de Mohamed Mera il y a tout juste 7 ans à Toulouse et Montauban. Celui qui avait assassiné 3 enfants, un enseignant et des militaires avait été aidé à différents niveaux par son frère Abdelkader et par Feta Malki. Mais peut-on parler de complicité? Maître Olivier Maurice est l'avocat de la famille du caporal Mohamed Leguade, victime de Mohamed Mera.
L'enjeu de ce procès, c'est à l'accusation de soutenir cet enjeu. C'est à l'accusation de démontrer que les éléments à la fois de l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et que la complicité sont réunis. Nous, nous sommes là pour porter la voix d'une famille qui est meurtrie, qui est aujourd'hui détruite. Cette famille, elle est détruite depuis la mort du caporal Leguade. Elle est détruite à la suite du procès de première instance, et elle sera détruite après le second procès. Nous n'avons jamais fait partie de ceux qui ont voulu substituer l'émotion au raisonnement et à la conviction. Les juges rendront une décision parce que oui ou non, les éléments constitutifs de crime seront réunis. C'est ça l'honneur de la justice française. Lors du premier procès, nous avons salué la décision de justice qui avait été rendue. Lors du second procès, nous la saluerons. Mais nous allons être présents pour appuyer l'accusation et faire en sorte que les crimes qui sont reprochés à monsieur Abdelkader Mera et à monsieur Feta Malki puissent être retenus par notre pays.
Des propos recueillis par Florence Sturm qu'on retrouvera à 7h et 7h24 sur France Culture. Fermeté payante du gouvernement ou répression entravant la liberté de manifester. Le débat fait toujours rage dans la classe politique ce lundi à la suite d'un week-end marqué à la fois par une hausse de la mobilisation des Gilets jaunes et par un retour au calme en marge des manifestations, notamment à Paris, sans qu'on ait vu finalement la moindre intervention des militaires de l'opération Sentinelle mobilisée pour l'occasion. Alors, la nouvelle politique du gouvernement en termes de maintien de l'ordre est-elle efficace ou liberticide? Débat qui sera difficile à trancher, Pierre-François Plessis.
2000 condamnations depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, un ministre de l'Intérieur qui lâche la bride de ses policiers. Pour la ministre de la Justice Nicole Belloubet, interrogée hier midi par BFM TV, la politique répressive du gouvernement a enfin porté ses fruits.
La nouvelle doctrine qui avait été posée début décembre permettait d'éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. Et donc il était important de reprendre les choses en main, c'est ce qui a été fait par mon collègue de l'Intérieur.
Le constat est partagé par une large partie de la droite. Par exemple, Renaud Muselier, président Les Républicains de la région PACA, qui s'est réjoui hier que la police ne recule plus et que la loi soit enfin respectée. Mais à gauche, on s'inquiète de la multiplication des mesures liberticides. Selon Danielle Simonet, conseillère insoumise de Paris, la baisse des violences du week-end n'est pas due au gouvernement, bien au contraire.
C'est au crédit des manifestants. Les black box ne sont pas descendus ce samedi. Regardez ce qui s'est passé à Nice. Ils ont voulu interdire les manifestations. Les gens sont quand même venus parce que la ville appartient à ceux qui y vivent. La répression policière a amené des charges Et nous avons cette femme depuis 70 ans qui est blessée, c'est déplorable. Cette escalade de la violence par les interdictions, par tout un arsenal, doit cesser.
Le week-end n'aura donc pas permis de trancher le débat, toujours aussi passionné que la semaine dernière à propos de la présence des militaires de l'opération Sentinelle, ou la semaine d'avant à propos de la loi anti-casseurs.
Pierre-François Plessis, ce matin on apprend que le groupe des Gilets jaunes signataires tentera à nouveau de manifester sur les Champs-Élysées samedi prochain. Ce sont des informations recueillies par France Inter. Ils feront la demande officielle de cette manifestation, les Gilets jaunes signataires, en préfecture en ce début de semaine. La bataille de Verdun en 1916 est-elle exclue des nouveaux programmes scolaires en classe de première, ou bien assiste-t-on à une nouvelle polémique stérile liée à ces programmes scolaires depuis que de nombreuses voix s'élèvent pour crier au crime mémoriel et patriotique? Des élus locaux de la Meuse, mais aussi Marine Le Pen ou encore Nadine Morano, dénoncent depuis 48 heures une disparition programmée effectivement de l'étude de Verdun. Des accusations qui ont forcé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, à réagir dès hier. Les explications d'Alexis Morel.
Quand on lit le nouveau programme d'histoire de première et précisément le thème numéro 4 sur la Première Guerre mondiale. En effet, la bataille de Verdun n'est pas mentionnée, à l'inverse par exemple de la bataille de la Somme. C'est ce qui a suscité l'inquiétude des élus du Grand Est. Mais Verdun ne figurait pas non plus explicitement dans le programme précédent, celui de 2010. Rien de nouveau donc, et surtout ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas et qu'elle ne sera pas enseignée, selon l'association des profs d'histoire géo contactée par France Info. Bien au contraire, aucun prof ne fait cours sur la Première Guerre mondiale sans parler de Verdun. Tout le monde l'évoque, à en croire l'association, qui dénonce une fausse polémique, même si elle reste pourtant critique sur les programmes dans leur ensemble. De son côté, pour tenter de rassurer, le ministère de l'Éducation indique que Verdun figurera bien noir sur blanc cette fois dans les documents pédagogiques qui accompagnent le programme.
La réforme du droit d'auteur au niveau européen, question éminemment complexe et politique au menu des parlementaires européens qui doivent en débattre à partir de demain. Il s'agit de dépoussiérer les mécanismes de protection des auteurs et de faire entrer les grands acteurs du numérique, et notamment les GAFAM, dans cette équation complexe. Les GAFAM qui, jusqu'à maintenant, profitaient allègrement d'un vide juridique, pourraient avoir à mieux rémunérer la création en changeant de statut à la faveur de l'article 13 du projet de réforme de la directive. C'est cet article qui suscite le plus de crispation. Les explications de David Ravier.
Jusqu'à maintenant, les géants du net comme YouTube, Facebook ou Twitter sont considérés comme des hébergeurs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être tenus pour responsables des contenus que les utilisateurs mettent sur leur site. Par exemple, si vous mettez en ligne des vidéos ou de la musique dont vous n'avez pas les droits, ce n'est pas la plateforme qui est attaquée, c'est vous. La nouvelle directive sur le droit d'auteur changerait cela en faisant passer la plateforme du statut d'hébergeur à celui de responsable des contenus. Dans les faits, cela veut dire qu'elles devront rendre des comptes aux ayants droit si les contenus qu'elles hébergent violent le droit d'auteur. Cela implique donc que les plateformes fassent du tri en amont et en aval, une mesure liberticide pour les détracteurs de l'article 13. De plus, la rémunération des ayants droit sera calquée sur ce qui se fait en télévision, avec une partie payée par la personne qui utilise l'œuvre d'un auteur et aussi par la plateforme qui l'héberge. Et c'est l'un des gros changements, puisque YouTube, Facebook ou Twitter, par exemple, devront verser une partie de ce qu'ils ont gagné aux ayants droit grâce à leur contenu. Enfin, et cela fait partie des autres points à débattre, des exceptions pour les sites qui ont moins de 3 ans, qui ont moins de 5 millions de visiteurs par mois, qui engrangent moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou qui sont à but non lucratif comme Wikipédia, pourraient passer entre les mailles du filet avec cette directive.
Aux États-Unis, l'enquête russe et les premiers éléments du rapport Mueller transmis hier soir au ministère de la Justice, éléments selon lesquels le procureur spécial et ses enquêteurs n'ont pas trouvé de preuves de collusion avec la Russie lors de la présidentielle de 2016, ni de la part de Donald Trump, ni de la part de son équipe de campagne. Du côté de la Maison-Blanche, on se frotte les mains, mais toutes les hypothèques sur le mandat Trump ne sont pas levées pour autant, estiment et espèrent les démocrates. À New York, Loïc Lory.
Un rapport complet et pas un simple résumé de quelques pages. Voilà ce que réclament désormais les démocrates. Le ministre de la Justice qui leur a transmis ce bref courrier, disent-ils, n'est pas un observateur objectif. Sa lettre, affirme l'opposition, pose autant de questions qu'elle apporte de réponses. Il est urgent que le rapport complet et tous les documents associés soient rendus publics. D'après eux, le rapport Mueller en particulier ne disculpe pas Donald Trump sur la question de l'entrave à la justice. Petite victoire face à l'absence de preuves de collusion. Donald Donald Trump en effet peut exulter, rien n'indique une quelconque conspiration avec la Russie. Son avenir politique se dégage en vue de la prochaine présidentielle. Pour autant, la partie n'est pas terminée. Les démocrates, notamment, ont la main à la chambre basse du Congrès. Ils ont déjà lancé plusieurs enquêtes parlementaires contre le président et ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Ses liens avec Moscou, son entreprise ou ses proches, la vie du milliardaire sera passée au crible au cours des prochains mois. Le procureur spécial enquêtait dans un cadre restreint, affirme le président démocrate de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Ce que le Congrès doit faire, dit-il, désormais, c'est avoir une vue d'ensemble.
Loïc Loury à New York. Un temps plutôt nuageux ce matin sur la France avec quelques précipitations attendues, notamment sur les reliefs de l'Est, avec de belles éclaircies attendues au fil de la journée dans le Sud. Dans l'ensemble, le soleil peinera à s'imposer. Température maximale comprise cet après-midi entre 14 et 23 degrés. C'est 6h40 sur France Culture, l'heure de retrouver Jacques Munier pour le Journal des Idées. Bonjour.
Bonjour Benoît Bouscarel.
Après avoir tenté d'éclairer la structure sociale du mouvement des Gilets jaunes, oui, certains chercheurs estiment aujourd'hui qu'il impose un changement de paradigme.
Oui, c'est le cas notamment pour Jérôme Fourquet qui publie au Seuil « L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée ». Pour lui, c'est la dislocation de la matrice catholique de la société française qui est à l'origine de la fragmentation et des multiples lignes de faille apparues au long de la deuxième moitié du siècle dernier, éducative, géographique, sociale, générationnelle, idéologique et ethnoculturelle. Il signale à cet égard sa dette envers le modèle théorisé par Marcel Gauchet dans Le désenchantement du monde, celui d'un processus de sortie de la religion. Dans le Figaro Vox, le philosophe et le politologue dialoguent sur la notion de fracture sociale que Marcel Gauchet avait substituée au vieux langage de l'antagonisme de classe, celui-ci donc supposait que l'on s'affrontait autour d'un enjeu commun. Or, à l'aube des années 1990, le contexte avait changé. L'ancien clivage entre les deux cultures dominantes, catholique et communiste, était obsolète. Pour Jérôme Fourquet, le mouvement des Gilets jaunes illustre cette évolution au long cours et la fragmentation, notamment territoriale, à laquelle elle aboutit sous nos yeux. Le soutien aux Gilets jaunes est territorialisé. Les cadres des grandes métropoles, mais aussi les habitants des banlieues qui partagent pourtant des difficultés similaires avec les Gilets jaunes, ne s'en sont pas sentis solidaires. En outre, ce mouvement semble marquer, avec la fin du mouvement ouvrier, le début d'un nouveau cycle avec une première, un mouvement social de consommateurs. Les Gilets jaunes manifestent le samedi à l'écart des syndicats et sans appeler à la grève. Enfin, ils ne mobilisent presque pas de référence aux mouvements sociaux qui ont précédé, si ce n'est la Révolution et les cahiers de doléances comme une lointaine allégorie. Tout cela met en cause le paradigme central de la science politique américaine, celui du processus d'agrégation des intérêts émanant des différents segments de la société grâce auxquels les partis parvenaient à bâtir autour d'un programme des coalitions électorales en amalgamant différents groupes sociaux aux intérêts divers et en maintenant cette agrégation dans la durée. La grande volatilité actuelle du paysage électoral est l'un des signes forts de la mutation en cours. Dans un article publié sur le site d'information et d'analyse AOC sous le titre « Temps de crise, l'occasion de repenser la structure sociale », Nicolas Duvoux et Adrien Papuchon soulignent que la crise sociale actuelle a mis en lumière des groupes que les usages sociologiques ne décrivaient pas toujours comme particulièrement fragiles. D'après les premières enquêtes disponibles, ouvriers, employés, précaires ou en CDI, petits indépendants et retraités semblent avoir été très présents parmi les Gilets jaunes et s'être souvent sentis représentés par eux. En d'autres termes, un monde du travail, auparavant décrit comme invisible, s'est rendu visible. Les sociologues rappellent que certains parmi eux, ont déjà forgé de nouveaux cadres prenant davantage en compte, dans les inégalités de conditions, des inégalités liées à des situations individuelles, parcours plutôt que positions, accidents plutôt que déterminants. De manière à discerner sous les statistiques des catégories socio-professionnelles, classe d'âge ou genre, l'hétérogénéité des situations vécues, et il plaide pour une conception dynamique des inégalités, car le facteur temps est devenu une variable essentielle dans la compréhension compréhension des structures sociales. Sa prise en compte permet d'articuler les dimensions subjectives et objectives de la situation sociale et de faire apparaître, surtout en période de crise, un facteur important d'inégalité, le pouvoir de se projeter dans l'avenir, apanage des classes supérieures. Dans cette perspective, Nicolas Duvaux et Adrien Papuchon suggèrent notamment de s'appuyer sur les travaux du premier Bourdieu, celui d'Algérie 60, et sur sa réflexion concernant la perception de l'avenir, son inscription dans les conditions matérielles présentes et le champ des possibles qu'elle détermine objectivement. Le mensuel Books publie un dossier sur l'ascenseur social ou ce qu'il en reste. Le sociologue britannique Michael Young, inventeur du concept de méritocratie dans les années 1950, exprimait à la fois un espoir et une crainte. L'espoir que les emplois aillent aux plus qualifiés, indépendamment de leur origine. La crainte qu'une nouvelle classe dirigeante fondée sur les diplômes se referme sur elle-même pour former une nouvelle aristocratie. Or, c'est la loi d'airain de la reproduction sociale qui s'est finalement imposée. Ceux qui ont accédé à l'argent et au pouvoir sont en effet incités à utiliser les moyens dont ils disposent pour aider leurs enfants à accéder aux meilleurs diplômes. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la Thaïlande et les élections législatives.
C'est ça, les premières élections depuis le coup d'État il y a 5 ans en Thaïlande. Un vote qui se présentait comme une sorte de référendum sur la junte au pouvoir, qu'on disait d'ailleurs verrouillé. Résultat, la junte se maintient, mais apparaît fragile quand même. Alors qui gouvernera la Thaïlande et qui pourra la gouverner une fois installé au pouvoir? Eh bien, on voit ça avec vous, Eugénie Mériot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes donc enseignante à Sciences Po, chercheuse à l'université de Göttingen et auteure du constitutionnalisme thaïlandais aux éditions Varenne en début d'année. Alors, qu'on comprenne bien ce qui s'est passé et ce qui se passe dans ce vote. Il y avait 50 millions d'électeurs. On a le parti de la junte qui serait donné à 500 000 voix devant le principal parti d'opposition, le Pue Atai, qui pourtant domine en circonscription. Des projections de députés qui donnent ce parti d'opposition gagnant dans les principaux journaux thaïlandais, tout simplement pour bien comprendre qui a gagné, on peut le dire pour l'instant?
Alors pour l'instant, la commission électorale n'a pas proclamé officiellement les résultats, ce qui est d'ailleurs assez étonnant dans la mesure où elle aurait pu le faire dès hier soir. Elle a ensuite repoussé à ce matin 10h heure thaïlandaise et maintenant c'est 14h. Heure thaïlandaise toujours. Je pense que déjà il faut bien comprendre qu'on peut constater un certain nombre d'irrégularités dans ce scrutin. En tout cas, les allégations sont grandes. Il y a un nombre de bulletins invalides qui se porte à près de 6%. On a une participation pour l'instant annoncée par la commission électorale qui est à 66%. C'est bien en deçà de ce qui avait été attendu avec 90% de participation. C'est la première fois qu'on a une élection depuis le coup d'État militaire. Comme vous l'avez noté, c'est la première élection depuis 8 ans. Donc on pouvait s'attendre à plus de participation. Donc ça, c'est le premier point. Mais en dehors... des irrégularités, on peut tout de même voir se dessiner la configuration du Parlement. Alors, il est très clair que le Palang Pracharat, c'est-à-dire le parti de l'armée, va pouvoir former un gouvernement. Selon la constitution thaïlandaise, le gouvernement est formé à l'issue d'un vote au Parlement réuni en congrès. C'est-à-dire que les sénateurs participent également au vote du Premier ministre. Et les sénateurs sont 250. Ils sont entièrement nommés par l'armée.
Et de ce point de vue-là, le poste de Premier ministre est acquis au général Prayut, donc le dirigeant de cette junte.
Exactement. Il lui suffisait d'avoir 126 postes ou 126 sièges à la Chambre basse pour pouvoir espérer former un gouvernement. Et là, avec les chiffres qu'on a, il dépasse largement les 126 sièges. Donc, a priori, on se dirige vers un Parlement dominé par un gouvernement de Prayut. C'est-à-dire qu'on continue avec le même Premier ministre au pouvoir, celui qui a fait le coup d'État de 2014.
Alors, reste à savoir s'il pourra gouverner, parce qu'un des deuxièmes enseignements de ce scrutin, c'est quand même l'affaissement assez notable d'un des partis qui était un pilier de l'alliance avec les militaires, c'était le parti démocrate, qui tomberait, alors là, j'ai des chiffres du quotidien The Nation, à 55 sièges, il était à quasiment 100 de plus aux dernières élections, c'est-à-dire en 2011. Là, c'est un fait notable, d'ailleurs, son dirigeant a démissionné, non ?
Exactement, je pense que c'est une des grandes leçons qu'on peut tirer de cette élection, c'est la fin du Parti démocrate qui a été sorti en quelque sorte par Nouvel Avenir, qui vient d'entrer en scène, donc un nouveau parti qui s'est créé il y a un an, qui a atteint le score de 20%, c'est assez notable. C'est probablement le plus grand bouleversement depuis la création du Tayraktay, qui était le parti de Taksin en 1998, qui avait donc rebattu les cartes de la politique électorale en Thaïlande pour 15 ans, hein, ces 15 dernières années. Donc là, on a la fin du Parti démocrate, qui était le plus ancien parti thaïlandais, qui avait été responsable pendant toutes ces décennies, hein, depuis les années 30, d'alliances et d'arrangements avec les militaires et la monarchie, et qui en fait avait participé au système thaïlandais dominé par les militaires et la monarchie. Donc là, c'était la caution de ce système qui maintenant disparaît. Donc on peut s'attendre à l'avenir à peut-être sortir des modes traditionnels de faire la politique en Thaïlande avec ces autorités de tutelle que sont la monarchie et l'armée.
Alors et aux côtés de ce parti Nouvel Avenir, donc qui est dirigé par le milliardaire Thanatorn Chuangroungkit, hein, qui s'est fait connaître dans ces derniers mois, il y a un autre parti qui est apparu. Ou pas, vous allez nous dire, sur la scène thaïlandaise, le Bhumjai Thai, qui lui a, parmi autres programmes, de légaliser le cannabis thérapeutique pour des raisons financières. Mais ce qu'on aurait, c'est donc le parti numéro 3 et numéro 5 au Parlement, qui serait donc dans l'opposition, ce qui veut dire que ce verrouillage constitutionnel dont on avait parlé pour cette élection, organisée par les militaires, n'a pas si bien fonctionné.
Le Bhumjai Thai, a priori, se joindra à une coalition avec le parti de l'armée. Hein. Le Bhumjai Thai, c'est toujours allié avec l'armée quand il le fallait. C'est un parti qui, au départ, était en fait une faction du Pheu Thai à l'époque, dans les années 2007. Et puis ensuite, il a fait scission. Et c'est lui qui a permis, en 2008, un renversement d'alliance au Parlement qui a permis au parti démocrate, donc le parti qui s'allie avec l'armée, d'arriver au pouvoir sans élection. Et à ce moment-là, le Parti démocrate a envoyé l'armée sur les chemises rouges à l'époque qui manifestaient, ce qui a causé la mort de 90 personnes et plus de 2000 blessés. Donc le Bhumjai Thai, il a fait partie de ce mouvement de répression des chemises rouges soutenu par l'armée en 2008. Donc c'est l'héritage du Bhumjai Thai, donc il va dans tous les cas s'allier avec l'armée.
Les chemises rouges soutien du Pheu Thai d'opposition. Alors qu'est-ce qui peut se passer, je veux dire, à quel point on est dans une période d'incertitude maintenant. Aucun des chefs de parti n'a pour l'instant, disons, reconnu ni défaite ni victoire, je crois. Et autrement dit, quelle peut être l'attitude de ce Future Forward dans lequel le parti Nouvel Avenir, dans lequel il y avait quand même beaucoup d'espoir de la part des jeunes, je crois.
Mais je pense que c'est un point important à noter, c'est vraiment l'enthousiasme et l'espoir qui ont présidé à cette élection, alors même que l'ensemble des règles du jeu étaient biaisées en faveur de l'armée. Donc en dépit de cela, on a eu une participation donc très forte, notamment des Thaïlandais qui votent pour la première fois, plus de 7 millions de Thaïlandais qui se sont déplacés aux urnes avec enthousiasme, et pour voter en effet principalement pour le parti Nouvel Avenir. Je pense qu'il y a une leçon très importante qu'il faut tirer de cette élection, c'est que le clivage traditionnel chemise jaune, chemise rouge qui a structuré la politique thaïlandaise ces 15 dernières années, est aujourd'hui dépassée. La jeunesse, comme je viens de le dire, elle s'est exprimée fortement en faveur de la démocratie et contre l'armée et la monarchie. Donc ce clivage qui était autour de la figure de Thaksin, aujourd'hui c'est un clivage entre ceux qui sont pour plus de démocratie et ceux qui favorisent encore l'autoritarisme et l'armée. Et au niveau de sa répartition, c'était traditionnellement un clivage ville-campagne. Aujourd'hui, il s'est déplacé vers un clivage générationnel, puisque ce sont les jeunes qui ont plébiscité majoritairement Nouvel Avenir et le Pheu Thai, alors que ce sont les générations les personnes plus âgées qui ont voté pour l'ordre et la sécurité, si je peux l'appeler comme ça, pour l'armée, le parti Palang Pratchalat.
Et donc, dernière chose, une possibilité que justement cette armée puisse faire preuve d'une ouverture démocratique un peu plus grande, tenir compte du Future Forward et puis des dynamiques sociales et démographiques, sachant que le roi lui-même n'a pas encore été intronisé et qu'il peut se passer beaucoup de choses politiquement dans cette période-là.
L'armée est sous la dépendance de la monarchie. Et on l'a vu très clairement, le roi n'est pas un démocrate. D'ailleurs, ce qu'il faut noter aussi dans cette élection, c'est qu'on a une polarisation très claire de la famille royale. On a une intervention directe du roi dans la politique thaïlandaise. La veille du scrutin, donc le samedi soir, il a fait une déclaration dans laquelle il exhortait les Thaïlandais à voter pour les bonnes personnes, c'est-à-dire les soutiens de la monarchie et de l'armée. Cette intervention directe, je pense que à l'avenir, elle va affaiblir la monarchie thaïlandaise. D'ailleurs, on a vu sur Twitter une foule de réactions à la déclaration du roi. Les Thaïlandais ont tweeté majoritairement Toléo. Et ça veut dire on est assez grand, merci, on peut voter tout seul. Ça aurait été impensable hein, il y a quelques années sous le roi précédent, le roi Rama IX, qui jouissait d'une aura quasi divine. Donc là, on a quand même un déplacement très net avec une armée qui se campe de plus en plus sur son traditionnalisme pro-monarchie et d'autre part une majorité de Thaïlandais qui eux plébiscitent la démocratie. Et la sœur du roi, ça c'est intéressant, elle s'est positionnée clairement dans le camp pro-démocratie, avec premièrement le fait qu'elle s'était présentée comme candidate au poste de Premier ministre pour un parti favorable à Thaksin, et deuxièmement, la veille du scrutin, donc juste avant la déclaration de son frère, elle présidait la cérémonie de mariage de la fille de Thaksin, donc elle s'affichait clairement avec Thaksin.
Aux côtés de l'opposition, encore une fois, cette sœur de 5 ans, l'aînée du roi, Ubol Rapana, on aura l'occasion d'en reparler, et de ces bouleversements qui s'annoncent sans doute en Thaïlande quand même. Merci beaucoup Eugénie Mériot pour vos lumières ce matin, chercheuse à l'université de Göttingen, auteur également des Thaïlandais de vie d'un peuple. On mettra en ligne sur le site la référence Atelier Henri Dougier en 2018. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Étudiants, fans de cinéma,
allez moteur!
Testez votre sens critique en devenant juré du prix France Culture Cinéma des étudiants.
Visionnez chez vous 5 films présélectionnés et soutenus par France Culture cette année.
Et décernez le prix à votre lauréat lors du prochain Festival de Cannes. Pour candidater, rien de plus simple.
Envoyez-nous une critique du film de votre choix à comfranceculture@radiofrance.com et une copie de votre carte étudiante.
Allons-y!
Attention, vous avez jusqu'au 31 mars pour candidater.
Plus d'infos sur franceculture.fr.
France Culture présente Onegin, d'après Alexandre Pouchkine, mise en scène par Jean Bellorini. Eugène Onegin aime le luxe et la fête. Tatiana, jeune fille noble de la campagne, tombe amoureuse de lui, mais il les conduit et préfère séduire la fiancée de son meilleur ami. Dans un dispositif bifrontal, 5 interprètes font entendre ce chef-d'œuvre par le biais de casques. Les voix et la musique enveloppent les spectateurs, formant chœurs et chuchotements. Onegin, jusqu'au 20 avril, au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Un partenariat France Culture.
Et à 6h57, France Culture enveloppe les auditeurs avec Les Matins et Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et vous commencez fort avec une polémique historique sur la guerre de 14-18.
Oui, une polémique en histoire, Xavier, rapportée par exemple par le journal Le Parisien aujourd'hui. Verdun serait gommé des programmes d'histoire. Alors le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, assure que c'est vrai et c'est faux. Plus précisément, la bataille de Verdun ne serait plus dans les programmes, mais on continuerait bien entendu à l'étudier, d'où la question suivante, à quoi servent les programmes si l'on continue à étudier ce qui n'est pas au programme. Pour le reste, la bataille de Verdun serait donc mise de côté, ce qui peut surprendre, hein, puisque Verdun c'est 300 000 morts, 400 000 blessés, et pourtant les élèves de première générale pourraient ne plus l'étudier, et cela au profit de la bataille de la Somme, alors qu'il s'agit d'une bataille plus modeste, enfin plus modeste, non, le terme est absolument mal choisi, et puisqu'on a affaire à 200 000 morts français, mais pour le reste, 500 000 morts britanniques et 500 000 morts allemands, avec 5 mois de combat, 1,5 million d'Allemands mobilisés, 2,5 millions de Britanniques et de Français, d'où une nouvelle version, alors par exemple du mort-kilomètre. Le mort-kilomètre, vous connaissez Xavier, plus un mort est lointain, moins il importe. Là, il s'agirait de savoir s'il faut privilégier le nombre de morts global, le nombre de personnes engagées sur un combat, pour savoir s'il faut choisir entre Verdun ou bien la Somme. Et c'est cela est la nouveauté, parce que tout cela contribuait à raconter une autre histoire de l'histoire. L'histoire patriotique de la guerre de 14-18 pourrait s'effacer au profit d'une histoire humaine. Peu importe que les morts soient français ou pas, ce qui compte, ce sont ces vies gâchées, tandis que pour d'autres, un mort, un vrai doit être des nôtres. Alors, si cet oubli de la bataille de Verdun fait jurisprudence, il va falloir réécrire la Seconde Guerre mondiale dans les manuels, oublier la France, l'Europe de l'Ouest pour évoquer la guerre à l'Est et la bataille de l'Atlantique. Une manière de voir qu'une autre guerre est possible. Et pourtant, je ne suis pas sûr que l'oubli de Verdun soit une bonne chose, l'oubli d'une époque où l'on pouvait mourir pour la patrie, hélas, car c'est cela qui a changé depuis un siècle, même si le nationalisme se porte bien ces temps-ci. Le nationalisme, c'est la guerre, comme le disait Mitterrand, et dans plus aucun pays européen, une classe d'âge n'accepterait de refaire Verdun ou la Somme. C'est cela probablement l'enseignement de la guerre de 14-18. Il faut parfois bien du courage pour être lâche.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Herner.
Et justement, aujourd'hui, nous poursuivons notre série consacrée à deux grandes voix européennes. Et c'est un philosophe allemand que vous entendrez aux environs de 7h40, Peter Sloterdijk, qui pose son regard sur l'Europe. Sloterdijk, entre tradition philosophique allemande et provocation. Bon réveil à tous, il est 7h sur France Culture.